On va reprendre un texte qu'on a pris dimanche dernier dans Hébreux, et je vais lire quelques versets supplémentaires pour introduire ce message. Je vous ai dit que c'est une série que je fais, une série de messages pendant tout l'été sur les réveils. Qu'est-ce que les réveils spirituels peuvent nous apprendre ? Et donc vous avez la belle, je sais pas comment on appelle ça, les réveils, entre autres, depuis la réforme. On va revenir un peu sur cette carte tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui est important pour vous. Enfin, en tout cas, je vous encourage à bien l'enregistrer parce qu'en 2017, donc à partir de janvier, toute l'année, en France, toute la France protestante, on va célébrer les 500 ans de la réforme protestante. Donc, quand vous aurez à votre travail des gens qui... Parce qu'il y aura des choses sur la télé, sur les grands médias, hein, partout, c'est en train de se préparer. Et nous, sur le Mantois, on prépare des interventions, des choses à produire pour qu'on puisse être présent aussi durant cette année sur les 500 ans de la réforme. Donc, c'est important que vous sachiez non seulement la réforme, mais aussi les réveils évangéliques, puisque nous sommes protestants évangéliques. Donc, si on ne connaît pas notre histoire et notre legacy, notre héritage, c'est difficile à expliquer à des gens qui posent des questions. Et ce serait dommage qu'on puisse buter sur une question. On peut éclairer nos concitoyens sur ce qu'est la réforme et l'évangélisme. Alors, on va lire dans Hébreux, chapitre 11. Vous savez que le chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Et on va introduire le chapitre 12, qui est le chapitre de la sanctification. 11, 39. Et tout cela, alors tout cela, c'est tous ceux qui sont cités dans le chapitre 11, hein, ils sont nombreux, tous ceux qui ont eu la foi. Donc tout cela, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Donc ça, c'est les derniers qui ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve, tué par l'épée, waouh, on n'en est pas encore là. Hein. Je laisse le reste parce que c'est assez horrible. Mais il est dit que tous ceux qui, par leur foi, donc ils avaient reçu un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ce qui est extraordinaire, c'est que même ceux qui ont été persécutés par de ce genre de persécution, eh bien, ils sont venus à la perfection. Alors, essayez de m'expliquer ça. Vous voyez, c'est raisonnablement, on ne pourrait pas. Moi non plus. Mais c'est une réalité, parce que la parole de Dieu nous le dit. Donc on va essayer de sonder un peu cette réalité, même si on ne la comprend pas, mais la parole de Dieu nous aide à la comprendre. Chapitre 12. Nous donc aussi, donc vous voyez le « nous donc aussi », il ne devrait pas y avoir des chapitres, hein, ça a été un moine qui l'a fait, mais donc il n'y a pas de... c'est discursif. Hein, c'est, voilà. Donc après ce verset, le verset suivant, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. » Vous voyez tous les témoins qui sont là-bas. Voilà, tout ça, c'est des témoins de notre histoire. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous voyez, on a tous une épreuve, enfin, on a tous une course à faire, c'est une course de relais. Si vous voulez, le christianisme, une course de relais. Nous sommes dans la course. Hein. Il y en a qui ont donné le bâton, et nous, on doit donner le bâton à la nouvelle génération. C'est pour ça qu'on a à cœur la nouvelle génération dont on vient de parler tout à l'heure. On ne veut pas la laisser tomber. On fait partie d'une continuité. Il faut bien comprendre ça. Et les yeux fixés sur Jésus, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, ça c'est important. C'est-à-dire, on ne court pas le relais comme dans le stade olympique. On fixe nos regards sur Jésus. Mais on court quand même. Qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, verset 3, en effet, celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée, Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous voyez? Donc, l'encouragement, c'est regarder les témoins de la foi. Avant la réforme, vous voyez, peut-être vous ne le connaissez pas, mais Marie-France, elle n'est pas là, Marie-France ? Non. Elle devrait connaître Jean Hus. Jean Hus, c'est qui Jean Hus ? C'est un Tchèque. Et ils ne viennent pas de Tchécoslovaquie, non ? Ah non, non, je confonds. Pologne. Mais ils ont passé par Tchécoslovaquie, par Prague. Hein. Voilà, à Prague, il y avait Jean Hus, donc vous voyez, c'est avant la réforme, hein, qui a déjà réformé. Ça, c'est déjà les premiers pré-réformateurs. Hein. La seule chose, c'est qu'il a terminé sur un bûcher, il a été brûlé vif. Vous voyez. Mais il avait la même carrure que Luther et Calvin. Hein. Mais bon, Dieu n'a pas permis qu'à ce moment-là, il soit effectivement quelqu'un qui est, disons, l'image de Luther qui, lui, a pu faire la réforme. Mais en tout cas, il a déjà démarré une semence en Tchécoslovaquie, puisqu'en Tchécoslovaquie, c'est les frères Moraves, hein, qui se sont levés un petit peu après. Et donc, c'est jamais, les martyrs ne meurent jamais pour rien. Le sang des martyrs crie. Et il a préparé le réveil morave qui est là. Donc l'histoire est une continuité. Une continuité. Et le relais, il est donné à la suivante. Et c'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'on est tous dans une sorte de pensée où on est tout seul, individualiste. Pour moi, mes vacances. On a entendu ça tout à l'heure, mes vacances, mes jouets, mes machins, mes trucs. Voilà. Et la communauté, on l'oublie, et encore moins l'héritage et ce qu'on va donner à la génération suivante. Donc Jean Hus, déjà, a eu le malheur de ne pas pouvoir faire la réforme, mais il a semé dans l'histoire quelque chose d'important et pour sa nation. On va passer au verset 9, donc tout le chapitre 12, verset 9. « Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respecté... » Il y en a qui ont été corrigés par leur père ? Non ? Oui ? Parfois, la correction était trop forte, mais voilà. En tout cas, le père corrige aussi. « Et ne devons-nous, à plus forte raison, nous soumettre au père des esprits ?» pour avoir la vie. Voyez-vous, quand on a été corrigé par un père terrestre, eh bien, on comprend aussi que le père céleste, il peut nous corriger. Il y en a qui acceptent la correction du père céleste. Pas facile, hein ? Parce qu'il est plus dur que nous, hein ? Enfin, quand on insiste, hein ? Quand il nous aime. On s'est aperçu avec Michel, d'ailleurs, que les ministres, enfin, les serviteurs de Dieu, souvent, quand le Seigneur voit qu'ils ne peuvent pas changer, il ne les corrige plus. Et là, c'est grave. On s'est aperçu, on dit, tiens, celui-là, il n'est pas corrigé. Ben, c'est grave. Il vaut mieux être corrigé. Il vaut mieux être corrigé parce que ça veut dire qu'on est aimé du Père encore. Et il croit qu'on est encore capable de changer. Et donc, voilà, c'est un petit truc que je vous donne. Acceptez la correction et remerciez le Seigneur pour la correction. Parce que s'il ne vous corrige plus, ça veut dire qu'il ne croit plus en votre capacité de changer. Voilà, ça c'est dit. Faites-en ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc la correction du Père est là, mais pour avoir la vie, parce qu'il veut qu'on ait la vie. Amen. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Voyez-vous ? Notre véritable intérêt, il nous corrige. Afin de nous faire participer à quoi ? À sa sainteté. Voyez-vous, là, je vous ai dit, tout le chapitre 12, c'est la sanctification. Et le problème de la sanctification, comme d'ailleurs la justification, on le verra, n'est pas vraiment comprise, parce que si on met trop l'accent sur la sanctification, comme si on met trop l'accent sur la justification, on tombe dans des excès. Donc il faut mesurer la justification et la sanctification. C'est pour ça que la réforme, elle n'est pas complète au niveau de Luther, n'est pas du tout complète en termes de réforme. Il a fallu d'autres réveils pour la compléter. Alors, on va terminer par le verset 25. Prenez garde. Waouh, prenez garde. la parole de Dieu, il prenait garde. Donc, hein, c'est important. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Là aussi, c'est une doctrine. Voyez-vous. Je fais une petite parenthèse pour vous expliquer la différence entre l'écriture et la doctrine. L'écriture ou les écritures, hein, bon, les écritures parce qu'il y a 666 livres, donc il y a différents écrits. Hein. Alors, l'écriture, c'est la Bible. Et les écritures, c'est l'ensemble des livres de la Bible. Donc, on peut utiliser au singulier ou au pluriel, c'est la même chose. Je crois que les catholiques utilisent plutôt le pluriel et nous, l'écriture. Bon, la réforme, c'est l'écriture. Bon, peu importe, c'est la même chose. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Les doctrines, c'est quoi? Comme j'ai utilisé ce mot plusieurs fois, c'est important que vous connaissiez la définition de ce dont je parle. L'écriture, c'est la Bible, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et les doctrines, pour vous, c'est quoi? Pardon? Non? Pardon? Voilà, c'est plus... Voilà, c'est compréhension, interprétation. Moi, je dirais que c'est une vérité, parce qu'il y a plusieurs doctrines. Une doctrine essaye de mettre en valeur une vérité de la parole de Dieu. Mon exemple, être justifié par la foi, c'est une vérité. Donc, c'est la doctrine de la foi. L'amour est cité dans la parole de Dieu, bien sûr, Dieu est amour. La doctrine de l'amour... C'est la vérité de l'amour à travers la Bible, vous voyez, etc., etc. Donc il y a plusieurs doctrines. La doctrine, c'est une interprétation, comme on venait de le dire, c'est une compréhension d'une vérité dans la Bible. Donc la doctrine, il faut un ensemble de doctrines pour comprendre la Bible. Vous voyez, la Bible, les doctrines, ça vient des hommes, c'est une compréhension des hommes, de la Bible. Parce que quand on lit la Bible, que vous ayez une doctrine ou que vous n'ayez pas de doctrine, vous en avez une. C'est la vôtre. Mais l'Église, elle établit des doctrines pour dire on va tous penser de cette manière sur ce sujet, sur l'amour, sur la foi, sur etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces doctrines-là, elles évoluent. Vous voyez ce que je veux dire? Elles évoluent chez vous. Chez moi, mes doctrines ont énormément évolué depuis que je suis chrétien. Vous voyez? Et ce n'est pas un drame, parce que la doctrine, ce n'est pas une révélation de Dieu. C'est une compréhension que j'ai de l'écriture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de dénominations différentes, parce que les doctrines sont différentes. Mais la Bible est la même, y compris avec les catholiques. Les catholiques, ils ont la même Bible que nous. Sauf que leur doctrine, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire leur doctrine. Moi, un jour, j'ai voulu sortir le catéchisme. j'ai dû mettre 3 ramettes de papier parce que mon imprimante ne s'arrêtait plus. J'ai dit, oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur le bouton imprimer. Waouh, j'ai sorti ça. J'ai pas lu. Hein. Mais je l'ai chez moi. J'aurais dû la laisser sur Internet. Voilà. Parce que les doctrines, depuis 2000 ans, ils en ont écrit. Hein. Voilà. Rassurez-vous, les évangéliques, sur les doctrines, elle est plus courte. Bon, non, elle est plus courte quand même. Voilà. Doctrine de l'EPEA, vous pouvez la lire, elle n'est pas très, très longue. Ceci étant, la doctrine, elle s'est faite à partir de la réforme. Hein. La doctrine protestante évangélique. C'est-à-dire, le protestantisme, c'est le fondement, le refondement, si vous voulez, de quelque chose d'important, le salut par la foi. Parce qu'à ce moment-là, là, il faudrait une autre frise. Voilà, ça s'appelle une frise, je crois. Une autre frise du catholicisme. Voilà. Alors là, je peux vous dire, elle serait beaucoup plus monumentale hein, dans tous les sens. Mais le catholicisme ici, à ce moment-là, bah, ils étaient tous catholiques. Hein. Jean Hus aussi, c'est tous des prêtres hein, qui sont, qui se sont réformés. Et ils ne voulaient pas sortir du catholicisme, c'est l'Église. Jésus n'a qu'une seule Église. Le catholicisme s'impose comme catholique universel, catholique c'est-à-dire universel, mais de toute façon il n'y en a qu'une. Donc il n'était pas question de sortir de l'Église catholique. Ce qu'il voulait, c'est réformer. Mais il y a eu une résistance ici par rapport à cette réforme. Ceci étant, la réforme ici a développé une doctrine qui est la doctrine du salut. Essentiellement, la doctrine du salut, c'est Luther et Calvin. Où est-ce qu'il est, Calvin ? Il est là. Il est né un petit peu après, Calvin. Et cette doctrine protestante, auquel, c'est pour ça qu'on s'appelle Église protestante, évangélique, protestante. Et pourquoi on s'appelle protestant ? Sarah, tu suis bien là ? Et c'est quoi la doctrine fondamentale du protestantisme qui nous fonde dans doctrine ? Oui ? Voilà, c'est les cinq sola, ou soli, les cinq soli, puisque le pluriel de sola, c'est soli, les cinq soli. Donc sola scriptura, hein, l'écriture seule. Alors l'écriture au sens de la Bible en tant que canon, hein, parce qu'il y a d'autres livres qui ont été rajoutés par les catholiques, mais c'est cette Bible-là qu'on a en commun avec les catholiques, sauf qu'ils en rajoutent un petit peu. Sola scriptura. Donc notre foi est fondée sur l'écriture, ce qui est écrit, la révélation. Sola quoi ? Sola ? C'est quoi fait ? Ah, fide, fide. Sola fide. Oui, je ne comprenais pas le fait. Fide, c'est... Je n'ai pas fait de latin, hein, mais au contact de Michel, je suis obligé de m'y faire. Elle avait du latin, lui. Il n'a pas fait de grec, mais heureusement. De l'italien. Sola fide, la foi, sauvé par foi. Sola encore quoi ? Gratia, la grâce. Après, il y a Soli Deo Gloria, bien sûr, qui finit, comme Jean-Sébastien Bach, l'œuvre de Dieu. Et Sola Christos, Christos seul. Mais les importants sont l'écriture seule, la foi seule, et la grâce seule, sauvée par la grâce. Effectivement, Luther a été marqué par l'épître aux Romains, la lecture de l'épître aux Romains, qui est la parole de Dieu, Scriptura, l'a interpellé sur le salut qui est gratuit en Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, la frise au-dessus, hein, vous imaginez catholique, disait à ce moment-là qu'on est sauvé par...
Les œuvres. Les œuvres. De les bonnes œuvres.
Regardez le film Luther, hein, il est très très bien fait, excellent Luther, et vous comprendrez que ce qui l'a frappé, ce qui l'a écœuré, ce qui l'a mis par terre, c'est les indulgences. Et on faisait payer pour être sauvé. C'est ça qui était horrible. On faisait payer, hein, on faisait donner de l'argent. Et ils ont inventé dans cette doctrine, pour bien sûr lui donner du corps et du volume, c'est le purgatoire, les années qu'on gagne, etc., etc. Donc, plus vous donnez, plus vous gagnez, plus vous êtes sauvé, plus rapidement, et vous restez moins dans un lieu où on vous torturait, etc. Enfin, c'était très élaboré, hein, les indulgences. Donc, la réforme, c'est de dire non. L'écriture dit qu'on est sauvé par grâce et par la foi. Mais, il y a d'autres doctrines qui ont été oubliées par les réformateurs de l'époque, donc Luther et Calvin, et qui font que le protestantisme n'a pas pu donner la vie. Le salut, oui, mais pas la vie complète. Parce que pour que la foi biblique, pour que l'Église de Jésus-Christ puisse vivre, et justement, Dieu, en fait, en suscitant ses réformateurs, a voulu que l'Église puisse à nouveau retrouver la vie, parce que ici, qu'est-ce qui arrive là, ici, là ? Le retour de notre Seigneur Jésus, vous y croyez ? Oui ? Vous voyez, ça c'est l'histoire, vous voyez ce que je veux dire ? Ici, je ne connais pas de date, hein, mais ici, Jésus revient. Et Ça, c'est l'épouse. Donc il faut que l'épouse soit prête. Vous voyez ce que je veux dire? Eh, vous me suivez là? L'épouse, c'est l'Église. L'Église, elle s'est endormie à tel point qu'elle est devenue apostate. Elle a dit qu'on est sauvé par les œuvres. Or, c'est Jésus qui nous a sauvés. Donc, on rétablit les choses, mais on rétablit en partie certaines doctrines. Et là, on continue à les rétablir pour accueillir le roi. Parce que Jésus veut une épouse qui soit complète, pas à moitié. Il veut pas que la robe soit blanche d'un côté et noire de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez jamais vous présenter à un mariage avec une robe déchirée. Non? Bon, ça peut arriver au passage si vous tombez, mais voilà. Donc, vous voyez, dans le naturel, on comprend les choses. Et dans le spirituel, on comprend pas. Mais il faut que le spirituel soit en rapport avec le naturel. Il faut que notre robe soit belle. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, les filles, là? Ah, alors c'est bien. Donc, Jésus prépare l'épouse. Et là, le salut par la foi n'était pas complet. Et pourquoi n'était-il pas complet? Qu'est-ce qui s'est produit, à votre avis, au moment de la réforme, quand Luther a gagné, grâce au fait qu'il a été protégé, hein, il a gagné parce que Jean Hus, il n'avait pas été protégé à ce moment-là, et Luther a été protégé par des seigneurs en Allemagne, parce que l'Allemagne a toujours été fédérale, hein, elle n'était pas centrale comme en France. En France, il y avait un roi, ici, il y a des Länder, et dans chaque Länder, ils pouvaient choisir leur religion. Donc il y a des princes qui voulaient choisir leur religion, donc ils l'ont protégé. Et c'est grâce à ça qu'il a eu la vie sauve. Qu'est-ce qui s'est passé avec les luthériens? Quelques années après, 20-30 ans après, non, vous ne pouvez pas imaginer, hein. Essayez d'imaginer, si vous ne connaissez pas l'histoire, essayez d'imaginer, c'est humain, il est arrivé ce que nous aussi, ça nous arrive, il s'est endormi, mais pire que ça, si on était encore endormi, ce ne serait pas grave, mais qu'est-ce qui s'est passé les luthériens? Oui, mais donnez un peu des exemples, voilà. Essayez d'être pratique au lieu d'être théorique. Moi, je passe pour quelqu'un théorique, mais c'est plutôt vous qui donnez des théories. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les luthériens de l'époque? Il s'est passé comme les catholiques. Vous voyez, je veux dire, il ne faut pas chercher midi à 14h. L'humain est humain. Les luthériens sont devenus aussi durs, même plus durs que les catholiques. Eh oui. Vous voyez, il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas parce qu'il y a la réforme protestante, ce n'est pas parce qu'il y a sola scriptura, sola gratia, sola fide, que les gens changent. Okay? Parce qu'il y a des doctrines qui n'avaient pas été remises à jour. Il n'y avait que la doctrine de la foi. Donc, ils étaient fiers de leur salut, ils sont devenus orgueilleux, méprisants, ils sont devenus durs. Est-ce que vous n'avez pas vu certains chrétiens des duretés? Bon. C'est ça que ça produit. Dur quand on est sûr de sa doctrine. Ils étaient sûrs de leur doctrine, et jusqu'à aujourd'hui, hein, les luthériens, je veux dire pur et dur, hein, quand ils sont sûrs de leur doctrine, ils vous persécutent. Hein. Ah ouais. Parce qu'ils ne sont pas mieux que les catholiques. C'est les mêmes hommes. Hein. Ils sont faits de la même chair. Hein. Donc ne commençons pas à critiquer les catholiques. Les luthériens, c'est la même chose. Et nous, on peut être la même chose si on ne comprend pas l'évolution des doctrines. Okay, luthériens sont devenus très durs. Et 30 ans après, alors il n'est pas là-dessus, je crois, il s'appelle Spener. Spener, alors, je suis très fier parce que c'est un Alsacien, il vient de Ribeauvillé. Spener, c'était un pasteur luthérien. Il était écœuré de la manière dont les luthériens... Il a eu la chaire de Strasbourg, de la cathédrale. À l'époque, la cathédrale était luthérienne. Elle était pas... C'est Louis XIV hein, qui l'a fait changer par les jésuites. Mais il était luthérien, la grande cathédrale de Strasbourg. Et il a prêché, là, contre cette dureté des luthériens. Et il a commencé le mouvement des Moraves. Il est parti en Allemagne, à Halle. Halle, c'est près de la Tchécoslovaquie. Et à Halle... Il a démarré, et c'est un comte, le comte Zinzendorf, qui est né en 1710, ici, qui a commencé un mouvement morave, qui est un mouvement de piété. C'est-à-dire qu'ils cherchent le Seigneur avec leur cœur. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Les luthériens, ils cherchent avec la tête. La doctrine de la foi, la doctrine de la grâce, la supériorité de ce que je sais et qui me sauve. Mais ça ne suffit pas, il faut que le cœur. Et donc là, les moraves ont commencé à prier. Tiens, c'est intéressant, des réunions de prière. Et tenez-vous bien, ils ont prié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 100 ans. Je répète, les moraves, Tchécoslovaquie, suite à Jean Hus qui a donné sa vie en martyr, Spener qui est allé là-bas, qui a commencé une œuvre de piété, ils ont commencé à prier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 100 ans. Bah, je vous signale que c'est ce qu'on veut faire ici à l'église. Bah, on n'est pas encore bien parti pour l'instant, hein, parce qu'on n'a qu'une réunion de prière le mercredi soir. Je ne dis pas ça pour vous accuser, mais c'est un fait. C'est un fait. Vous voyez. Tous les pasteurs disent, si vous voulez connaître le thermostat, le thermomètre d'une église, regardez une réunion de prière. Voyez. Voilà. C'est pour ça qu'avec Michel et moi, tant qu'on sera ici, on n'arrêtera pas cette réunion de prière. Parce que si on arrête, l'église est morte. C'est fini. Et si on ne prie pas, alors on peut prier tout seul. Hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde individuellement veut prier. Ce n'est pas un problème individuel. Mais c'est collectif. Là, les Moraves, ils ont prié tous ensemble, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 100 ans. Alors vous m'êtes étonné qu'il n'y ait pas eu de réveil, forcément. C'est un réveil en soi. Et ce réveil a fait que l'Église a retrouvé sa mission. Parce qu'à l'époque, les luthériens, ils ont complètement oublié la mission. Le monde, ben non, c'est moi je suis sauvé par la foi, je suis sauvé, etc. Il n'y avait pas de missionnaires. Et les Moraves sont partis dans le monde entier. Une toute petite équipe, c'était surtout des hommes d'ailleurs, hein, c'était pas les femmes. Hein. Enfin, il y avait des femmes aussi. Pour montrer la teneur d'un réveil. Et ces hommes sont partis comme missionnaires et ils ont commencé à évangéliser le monde. Parce que quand vous avez Jésus dans le cœur et que vous êtes dans la prière, vous pensez, vous êtes en accord avec la volonté de Dieu et vous pensez au monde. Parce que Dieu a tant aimé le qu'il a donné son afin que quiconque croit en lui. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est ça. Quand on est touché dans le cœur, on pense aux autres. Et on ne peut pas faire autrement que penser aux autres. Donc vous voyez, une nouvelle doctrine a été développée, c'est la doctrine de la foi. Là c'est la foi, là c'est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Doctrine de la sanctification qui a donné Dieu au méthodiste Wesley. On en parlera un petit peu plus en détail. Et au passage, cette doctrine du cœur a été développée par les Huguenots dans les Cévennes. C'est un peu en sandwich entre les deux. Les Moraves ont commencé avant. Et en 1685, il y a eu la révocation de quoi? L'édit de Nantes. C'est une catastrophe. Louis XIV a dit... Les protestants n'ont plus le droit d'avoir des temples, les protestants n'ont plus le droit même d'enterrer leurs morts. Donc là-haut, je leur ai montré à Daniel et son mari Isaac qu'ils enterraient dans les jardins. Sinon, ils étaient mis en prison, etc. Donc vous voyez, parfois, des épreuves amènent les gens à la foi. Et Dieu est obligé d'aller très loin, parce que c'était horrible. Hein. Tous ceux qui étaient aux galères, hein, les Casalis en savent quelque chose, etc. Mais ça a permis un réveil. Comme quoi, n'attendons pas que Dieu frappe trop fort pour avoir le réveil. On peut très bien commencer à prier et avoir le réveil. Et ça, il y a des dames au Havre qui l'ont compris, au début du 1900, et qui ont permis le réveil en France de Pentecôte, parce qu'ils priaient effectivement dans la fameuse boutique au Havre pour amener le réveil. Alors, je termine, parce que j'ai encore la Sainte Seine derrière, juste pour vous encourager, pour montrer que quand Dieu agit, il agit avec des merveilles. Dans les Cévennes, quelques témoignages, quand Dieu envoie le réveil, et nous voulons prier pour ça, parce que nous ne pouvons pas produire ça, et il fait des grandes choses. Par exemple, les prophètes dans les Cévennes avaient souvent des visions des cieux ouverts. Ils voyaient le paradis, ils voyaient les anges, ils voyaient le combat des anges, et le combat des armées d'hommes et l'enfer. Par exemple, l'épreuve du feu. Le prophète clarit, sur indication de l'esprit, tout le monde n'a pas fait ça, il a été préservé au milieu des flammes. Il y a eu un grand feu, il est rentré dans les flammes. Et de son commencement jusqu'aux braises, donc ça a duré du temps, et la protection était totale. Même ses cheveux, ses habits avaient été respectés. Et ça, c'était pour montrer la puissance de Dieu. Que même si Louis XIV a décidé de les détruire, Dieu allait les protéger. Autre prodige, l'épreuve du couteau. Comme signe que c'était bien l'esprit qui parlait, qu'il protégeait, il prit le couteau de la main droite et se frappa plusieurs fois de la pointe, le ventre et l'estomac, avec une très grande force. Mais son corps résistait comme s'il eût été de fer, et son habit même ne fut pas transpercé. Tout le monde était effrayé et fondé en larmes. La protection contre les balles, parce que les dragons, ils tuaient les huguenots avec des armes, et eux, ils n'avaient pas d'armes. Dieu arrêtait la force des balles du fusil, de sorte qu'il frappait quelquefois, comme à bout touchant, ceux que Dieu voulait garantir. L'un de nos soldats m'a fait voir son juste au corps, percé de 3 balles, à 2 pouces l'une de l'autre, vis-à-vis des reins. Et les 3 balles étaient demeurées entre la chemise et la chair. Il n'a pas été tué. Les chants célestes, des chants de psaumes, ont été entendus comme venant directement du ciel. Ces voix célestes étaient d'une très grande beauté. Et parmi ceux qui venaient pour écouter, les uns n'entendaient rien et les autres étaient charmés par cette divine mélodie. Donc ils entendaient les anges qui chantaient. Durand Farge priait un jour « Augmente-nous la foi ». Il sentit tout d'un coup un fardeau sur sa poitrine qui arrêta pour un moment sa respiration. Des flots de larmes s'écoulent de ses yeux. Il ne put plus parler pendant 1 heure et demie, une sorte d'évanouissement et de frissonnement de soupirs. Prédication en dormant. Une jeune fille reçut des dons de révélation, de prédication et d'exhortation à 16 ans. Elle prononçait des discours admirables en assemblée. En dormant, elle parlait de façon très suivie et il s'agissait presque toujours de pression à la sanctification. Au réveil, elle ne se souvenait de rien. Donc elle a prêché à toute une assemblée. La lumière guide. Pour rejoindre les assemblées cachées, parce qu'ils devaient se cacher dans les grottes, dans les endroits déserts, ils furent guidés par une lumière qui les guidait pour aller à l'endroit où ils devaient se retrouver. Il n'eut pas sitôt mis les genoux à terre qu'il parut une lumière en l'air, comme une grosse étoile, qui s'avança vers le lieu où était l'assemblée. Un autre témoin raconte « Il m'est arrivé plusieurs fois, comme je cherchais de nuit la troupe, le ciel m'envoya une espèce d'étoile qui venait se poser sur le lieu où est-ce que je cherchais. » C'est du vieux français alors. Et encore, « Je te dis, mon enfant, que je ferai tomber une lumière qui vous indiquera le lieu que vous cherchez. Nous vîmes une lumière tombant du ciel comme une fusée. La lumière tomba aussi pour éblouir leurs ennemis. Il est souvent arrivé qu'en se retirant des assemblées, quelques-uns de ceux qui parlaient dans l'extase déclaraient alors que Dieu ferait tomber des feux ou des lumières du ciel pour éblouir les yeux des ennemis et pour nous conduire. Et cela est arrivé plusieurs fois. Les fruits. Quand on leur demandait quels étaient les fruits de tout cela, ils pourraient déclarer, tel Isabeau Charas, l'horreur pour l'idolâtrie romaine, le zèle pour la plus pure religion, le mépris pour le monde et pour ses vanités, dans les jeunes gens comme dans les autres, l'esprit de réconciliation et d'amour, la consolation intérieure, l'espérance, la joie du cœur, la haine pour le mal et l'amour pour le bien. Voilà les fruits qui sortaient de ces rencontres. Persécution des anciens amis. Malgré les signes, malgré les prodiges, malgré les fruits, ils furent persécutés par leurs anciens amis. Pas uniquement par les dragons de Louis XIV, mais par leurs anciens amis. Quelques-uns de nos frères, qui priaient autrefois pour nous, devenus plus injustes et plus cruels que nos ennemis, nous outragent et nous maudissent. Mais nos inspirations nous consolent et nous font désirer qu'ils se convertissent afin qu'ils vivent. Vous voyez, c'est pas... Quand vous êtes dans un réveil, il y a des combats spirituels, hein, même parmi les vôtres. Parce que ceux qui ne veulent pas rentrer dans le réveil, vous les gênez. Parce qu'ils veulent être plutôt favorables aux persécuteurs. Donc, ouais, on est dans le combat. Mais ce qui en sort, c'est extraordinaire. Est-ce que nous voulons vivre un réveil? Non, mais ça coûte. Ne dites pas amen trop vite. C'est comme le chant qui dit « Seigneur, je te donne tout ». Mais quand on sort ici, est-ce qu'on lui donne tout? Vous voyez, il y a des choses parfois, il ne faut pas trop répondre trop vite. Parce que ça coûte. Mais le coût est effectivement extraordinaire quand on le vit. Et c'est cette frise qui nous parle de ces choses extraordinaires que j'essaierai de vous commenter pendant tout l'été, hein, où on arrive à un moment où Dieu a reconstitué l'ensemble des doctrines. Et Wesley l'a bien expliqué. La doctrine de Wesley, elle est notre doctrine. Elle est la doctrine de Daniel et Isaac, de ces jeunes qu'on veut faire venir. C'est pour ça qu'on cherche à avoir la même ADN que ceux que le nôtre, pour ne pas dévier. La doctrine, c'est que l'essentiel de la foi, dit Wesley, c'est le quadrilatère wesleyen, l'essentiel de la foi est révélé dans les Écritures. Sola Scriptura. Il est éclairé par la tradition. Tradition, c'est l'ensemble des doctrines. Il est vivifié par l'expérience. On a besoin d'une expérience solide avec le Seigneur. Et il est confirmé par la raison. Oui, la raison, il a sa place. Ne rejetons pas la raison. La raison, elle est importante. Mais elle vient à sa place. Et l'ensemble de ces quatre éléments, c'est le tétramorphe. On en parlera, c'est l'être vivant. C'est cet objet, enfin cette figure qu'Ézéchiel a vue, que Jean a vue, et que nous devrions être l'être vivant, être vivant comme Christ l'a été. Nous sommes disciples de celui qui est vivant, de celui qui a été ramené de la mort à la vie. Et en tant que ça, nous avons l'ensemble de ces doctrines qui sont la base de notre vie de foi. Et je vais essayer de vous expliquer ça au fur et à mesure pour vous donner envie d'avoir un réveil. Amen. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui est vivant au siècle des siècles. Et tu veux que ton Église soit vivante et qu'elle puisse être cette épouse qui tend les bras et dit « Maranatha, Seigneur, viens ». Seigneur, nous voulons être cette épouse. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui sommes vivants et non pas morts, non pas dogmatiques, non pas, Seigneur, tout ce qui est religieux, mais nous voulons être vivants. Et Seigneur, pour cette vie, nous avons besoin d'être réveillés. Et nous te remercions pour le réveil que tu nous envoies. Parce que Seigneur, tu es bon. Et à chaque génération, tu veux manifester ta grâce. Et nous le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen.